Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans pour cette édition littérature qui sera consacrée à Star Wars Bounty Hunter. Donc il s'agit du tome 2 en fait de la série Bounty Hunter, de la série régulière évidemment, et donc qui est édité chez Panini. Ici Thomas en direct de France, et pour discuter de ce comics avec moi ce soir, nous avons le très très beau, le très très intelligent Francis Pelletier. Bonsoir Francis.
Salut, salut, en direct de Québec.
Comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Chez nous, c'est la fin de l'après-midi, donc un bon moment quand même là, pour se retrouver autour d'un album, ma foi, très intéressant, qu'on va en discuter aujourd'hui.
Aucun spoiler pour l'instant. Alors, on va en profiter également pour rappeler nos partenaires littérature. Et effectivement, nous travaillons actuellement avec Star Wars Littérature Québec et on vous invite à rejoindre le groupe où que vous soyez dans le monde et particulièrement à participer à leur collecte de fonds actuelle pour la cause de la santé mentale au Québec. Alors, le WhatsApp, nous allons le garder pour la fin, comme d'habitude. Donc, je vais quand même en profiter pour rappeler nos émissions récentes hein, qu'on a pu avoir. Il y a tout d'abord il y a notre ancienne émission littérature hein, sur le Star Wars 1, la nouvelle série qui se passe après l'Empire contre-attaque. Hein, donc, ça a été renuméroté. Nous avons également enregistré un Star Wars en direct sur la Bad Batch, hein, donc les épisodes finaux. De la Bad Batch. Nous avons également un épisode qui a été réalisé sur le Star Cruiser, me semble-t-il, c'était Seb et Jean-François.
Hein. Oui, exactement.
Voilà, et voilà pour ce qui est des anciens épisodes à regarder. Au niveau de notre boutique, et comme toujours, on vous invite à montrer vos couleurs en portant fièrement les t-shirts et les produits dérivés Star Wars en direct et autres designs Star Wars que vous pourrez retrouver sur la boutique. Comme nous avons zappé notre WhatsApp, nous allons directement passer en hyperespace et vous présenter ce nouvel album. On est parti.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Et on attaque tout de suite avec War of the Bounty Hunter, tome 2. Alors, nous avons... Ah, d'accord, on a le même. Hein. Il t'a été envoyé par Loïc aussi?
Non, parce que la somme de tous les coups que j'ai eus pour les éditions spéciales fait que ben, déjà, il n'y avait pas d'édition spéciale pour celui-là. Hein. Ouais. Et il y en a un prévu, c'est pour la guerre des chasseurs de primes, je crois, hein, cet automne, fin de l'automne, début de l'hiver.
Donc le crossover, du coup.
Ouais, ben en fait, c'est que le crossover, non seulement il y a les numéros de chaque série, mais il y a aussi des numéros uniques, là, vraiment War of the Bounty Hunters. Fait que ça, okay. L'album, ça va être ça. Mais c'est ça, les coûts d'expédition, ça, puis de douane, puis de conversion de dollars canadiens en euros, etc., etc. Finalement, mes BD éditions collector ont coûté cher. Fait que je sais pas si je vais prendre celui-là de... Je vais voir la couverture, en tout cas.
Parce que l'édition classique, vous l'avez en mode normal, au même prix, quoi.
Oui, c'est ça. Ben, évidemment, il y a la conversion à considérer, les taxes, tout ça, mais c'est les frais d'expédition de la poste normale là, France-Québec, que ça a été astronomique. J'ai même eu des frais de transaction aussi hein, pour transférer des euros, des dollars en euros à Loïc. Ça m'a coûté une fortune là, pour avoir les deux éditions collector. Et tout ça à cause du fait que Panini... n'expédie pas en Amérique, n'expédie uniquement dans certains pays d'Europe. Donc, à ce moment-là, j'avais pas le choix de faire affaire justement avec quelqu'un en France. Mais c'est malheureux parce que je crois qu'il leur en a même resté. T'sais, il avait fait 300 exemplaires, je pense.
Ah oui, d'accord. Ça se trouve, ça a fini au pilon.
Ben, moi, je pensais que ça allait... Parce que la première fois qu'ils ont fait ça pour la Haute République, le numéro 1 de la Haute République, ça c'est parti comme des petits pains. Et moi, je croyais que ça allait faire la même chose, mais je pense que sur un des deux numéros, là, soit le Vador ou le Star Wars, il en reste encore. Donc, ceux qui les ont pas eu, allez voir sur le site de Panini.
Tu pourras te rattraper avec la news qu'on a eue récemment sur les futurs tomes qui vont être édités du Star Wars Légende. À savoir, on va avoir des intégrales qui vont sortir hein, de l'UE Légende. 25€ pour 450 pages. C'est la première fois que Panini tape aussi fort. Et sachant qu'il y aura une version cartonnée à 30€ les 450 pages, ça reste quand même honorable.
En prix par page, c'est effectivement pas cher.
Voilà. Sachant qu'ils vont également refaire les Marvel Star Wars, les Star Wars classiques, qui sortaient à l'époque en France, nous, chez Titan, et qui vont les ressortir cette fois-ci sur le format intégral Marvel classique, à savoir c'est ce qu'on trouve sur les X-Men, les Spider-Man et compagnie. Donc ça va être super sympa et ça va valoir le coup. Donc du coup, tu vas te rattraper, Francis, tu vas faire des affaires.
Ouais, si je me mets aux légendes, parce que j'achetais pas tous les légendes, mais c'est ça. Si je m'y mets, effectivement...
Achète KOTOR. Ouais. KOTOR Legacy Dark Times. Ça, c'est la base.
Mais voilà, c'est ça. Ben, j'ai pas acheté non plus les numéros séparés là, de la Haute République. J'attends l'album complet. Lui aussi, il devrait arriver, je crois, en octobre. Quelque chose comme ça.
Ouais, mi-octobre, je crois. Ouais, c'est ça.
Donc, parce que là, c'est ça. Je trouvais qu'au prix par page, justement, ça commençait à chiffrer. Là,
puis ça fait surtout très moche dans la bibliothèque.
Ouais, c'est ça. Donc, voilà, mais non, je continue de me ruiner. T'inquiète pas.
Retournons donc à nos moutons. Alors, c'est ce magnifique album, il est scénarisé par Ethan Sachs. Alors, Ethan Sachs, il n'est pas étranger, hein, puisqu'il nous a fait d'autres Star Wars, notamment le Galaxy Edge, je crois. Et puis, il a participé à toute la série Old Man Logan. Hein, il a repris la suite, je crois que c'était Millar qui avait fait l'œuvre originale à la base. Et il a créé Old Man Hawkeye, Old Man Quill. Donc, il est, voilà, c'est pas un petit nouveau sur les scénarios. Donc, il se débrouille déjà à la base. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et Paolo Villanelli, on l'a déjà vu également, lui, au dessin sur Rogue One, l'adaptation du film en bande dessinée.
Ouais, on l'avait eu aussi Star Wars, on l'avait eu sur Fallen Order, on l'avait eu sur la série Lando aussi.
Exact.
Donc, non, c'est ça, Villanelli qui fait quand même du bon boulot. Et ben c'est ça, là, on voit à l'écran, là, pour ceux qui sont qui nous écoutent sur YouTube, les numéros inclus dans cet album-là. Parce que faut quand même préciser hein, que c'est pas un arc complet comme on a l'habitude. Hein, c'est comme trois petits...
Ouais, c'est plusieurs mini-arcs, ouais.
Deux petits arcs et un one-shot, là, donc...
Ouais.
Donc, voilà. Sinon, c'est ça, je pense que c'est 18€ en France. Ça donne 136 pages, donc c'est quand même... moi, en tout cas, je trouve qu'on est quand même dans l'abordable, là. Mais voilà. Côté couverture, justement, pendant qu'on les a à l'écran, je peux peut-être le mentionner. On en a une de Paolo Villanelli, c'est le numéro 8. Donc, celle-là avec les musiciens là, dans une cantina là, qu'on voit à l'écran. Sinon, c'est Lee Bermejo qui a signé les deux premières. C'est lui qui avait fait toutes les cinq premiers numéros de l'album précédent. Donc, on peut le voir à l'écran, là, le numéro 6 et le numéro 7. Et après, ils ont changé pour Mattia de Loulis. Toujours autant de misère là, avec...
Un peu moins joli quand même.
Mais lui, je crois que c'est sa première... c'est ses premiers Star Wars. Donc, c'est quelqu'un qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant. C'est lui qui a signé les numéros 9, 10 et 11 là, dans cet album-là. Et en tant que moi, personnellement, là, je peux tout de suite dire que je suis bien content de ce changement-là. Au niveau des
couleurs. Ah, t'aimes mieux les nouveaux, toi?
Ouais, j'aime bien les nouveaux. Par exemple, sur le dernier, on voit Bosque. Là,
alors, Bosque, la perspective est sympa.
Style plus réaliste, peut-être, un peu. Là.
Ah ouais.
Et ben, c'est justement celui qu'on a utilisé pour... je peux remettre là, la vignette de l'émission d'aujourd'hui. Donc, on a Valence là, sur un X-Wing. Donc, non, c'est ça. J'apprécie bien.
J'ai préféré les premiers, moi, tu vois, c'est marrant.
Ben, je trouvais aussi au niveau colorisation, je trouvais les premiers très très ternes. Je l'avais dit dans l'épisode sur le
premier. Mais c'est peut-être aussi pour donner l'ambiance du truc aussi.
Ouais, exact, pour justement peut-être montrer que ça sera pas quelque chose de.
Ouais, que on n'est pas chez les bisounours quoi.
Non, c'est ça. Mais puis tu sais, les deux couvertures des deux albums de Panini, donc le premier et le deuxième, sont quasi identiques.
Oui, par contre, ça c'est vrai.
des couleurs, c'est ça, très ternes. Donc, je pense que les gens risquent même de se tromper, de voir celui-là, puis de se dire, ben, je l'ai déjà, lui. Mais en fait, c'est ça, confondre avec le premier.
Et c'est les mêmes protagonistes.
C'était Valance, mais au lieu d'être Fordham, là, et je ne me souviens plus le nom de l'autre chasseur de primes.
Zuckuss,
c'est ça. Là, sur l'autre, c'était Boba Fett et Bosk. Pas Bosk. Ouais, c'est ça, je pense que c'était Bosk. Sur le premier, bref. Voilà, bien content de ce changement-là.
Donc voilà pour le déjà les auteurs. Et alors, on va faire un tout petit résumé de l'histoire avant de s'y attaquer. Donc effectivement, ça commence, alors je vais en profiter pour montrer, hein, on a un petit flashback avec l'amour de Valance quand il était jeune et innocent et sensible et tout ci, tout ça. Et donc, il leur arrive un drame et donc, du coup, il quitte sa femme, mais il promet de la retrouver. Sauf que comme il revient en robot, il se trouve pas super beau, pas super présentable, et il n'ose pas y retourner, mais il est toujours amoureux. C'est ça le drame, Francis, j'imagine que tu as versé ta larme, n'est-ce pas?
Ah ouais, tout à fait. Moi, un droïde, la Terminator, qui pleure, ça me affecte beaucoup.
Ah, ça t'a fait quelque chose, il a son œil rouge qui a gigoté. Et donc, cette fois-ci, on avait eu, vous savez, les cinq fameux chasseurs de primes qu'on a pendant l'Empire Contre-Attaque, à savoir Boba, Bosque et Papier Toilette, on les a vus les trois là dans le début de la saga. Il manquait un peu Zuckuss et Forlom, et ben ça y est, poum, les voilà les deux. Alors Zuckuss et Forlom, en plus c'est des personnages que je confonds tout le temps parce qu'il y a une histoire avec des figurines où ils avaient inversé les noms sur les figurines. L'histoire m'est tellement restée dans la tête que je sais jamais lequel est Forlom et Zuckuss. Donc voilà, à chaque fois je les confonds. Alors du coup là je dirais Forlom c'est le robot et Zuckuss c'est l'espèce de tête de caca là avec des yeux de mouche quoi. Forlom, parce qu'il a un nom de robot, quoi. Donc, évidemment, ils viennent rechercher Valance. Donc, s'ensuit, on va pas trop rentrer dans les détails, hein, mais on va dire qu'il lui court après pendant un bon bout de temps, et que lui, il va se cacher justement chez son amour de toujours, qui, l'accueille moyen. En plus, elle a retrouvé un bonhomme qui, lui aussi, finalement, l'accueille un peu moyen, ce qu'on peut comprendre, hein, l'ex qui arrive avec tous ses problèmes chez lui. Au début, ils sont pas très copains, puis finalement, ils sont copains. Parce que ils ont une cause commune, voilà. Bon, on le résume un petit peu comme ça. C'est assez simple. Il réussit finalement plus grâce à de la négo à échapper à Forlom et Zuckuss. Et donc on passe ensuite au. Tu m'as demandé succinct, Francis. J'ai fait succinct. Hein. Ah oui, et il abandonne son amour de toujours. La voici, la voilà. D'accord. On continue notre histoire et là on a un petit flashback dans le passé à l'époque où il était pilote. Là où il était pilote avec son ami Han Solo, et on a l'impression qu'il lui en veut à Han Solo. En gros, qu'il n'a pas été sympa avec lui, qu'il l'aurait abandonné. Et donc, on commence l'histoire avec, on a l'impression qu'il est vénère après Han Solo. Et donc, on se dit, ah, c'est quand même dommage parce que c'est deux persos sympas, etc. Et ben, on va s'apercevoir finalement que c'est tout l'inverse au fur et à mesure du tome, enfin, de cet arc narratif. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, moi, personnellement, dans l'histoire. On en reparlera. Parce qu'il y a un retournement de situation. Donc, on a évidemment une scène dans la cantina avec des bis qui chantent et non pas des beats qui chantent.
Je pense que tu l'as déjà fait dans une autre émission.
Oui, mais il y a des gens qui disent les beats.
Oui, c'est vrai, ouais, effectivement.
Ouais, c'est vrai.
Je sais plus si c'est toi qui l'as fait, mais je suis sûr que quelqu'un a fait cette.
Statistiquement, ça peut être Sylvain aussi.
Oui, ça peut être.
Une vanne comme ça peut être
Marcus,
lui aussi.
Je sais plus. Ouais. Bref.
Donc, voilà, il y a une petite bagarre dans la cantina, le truc classique, hein, voilà, donc du coup, chacun veut montrer que c'est lui le plus fort, on essaye de se trahir, etc., hop, et on a nos amis Forlom et Zuckuss qui reviennent, hein, qui viennent toujours à la chasse, hein. Sauf que on se retrouve, cette fois-ci, avec notre ami Papier Toilette, qui est ici, d'accord, mais il est prisonnier des Wiquets, et alors là, c'est assez sympa, parce qu'on sait que les Wiquets sont des pirates, mais ce ne sont pas n'importe quels Wiquets. Alors, c'est pas Hondo Onaka, parce que, il commence à peut-être apprendre de l'âge. Je sais que je connais même pas trop l'espérance de vie des week-ends.
Parce qu'il est même là dans la postlogie, sauf qu'il est plus à la tête, c'est ça. Là,
voilà. Il a perdu son équipage. Mais par contre, c'est l'héritage du Hondo Onaka et la Wiki. Et ça, c'est intéressant aussi qu'ils aient mis une femme Wiki, parce que ça montre que, voilà, même chez les Wiki, du coup, on peut laisser un peu de place aux femmes. Donc, encore une fois, ça, c'est le côté Star Wars qui évolue, donc c'est plutôt bien. Retiennent prisonnier notre fameux Papier Toilette. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour Papier Toilette? Ça, on va le voir par la suite. On apprend justement qu'en fait, Han Solo est vraiment le gars qui a sauvé Valance et qui lui doit la vie. Donc, ça engendre une dette de vie, hein, qui est quelque chose d'important dans Star Wars. Hein. Chewbacca, il a lâché sa vie et il vit le mec 400 ans pour, voilà, pour Han Solo. Donc, ça, c'est important. Et voilà, on nous dit que donc Valance, lui, vient sauver en fait un équipage rebelle parce qu'il a une dette vis-à-vis des rebelles qui l'ont aidé précédemment. Et bah, ma foi, du coup, il vient aider les rebelles à se sauver de la bande des Wicket. Et donc là, on se dit, bah voilà, sauf que le chef des rebelles n'est pas très content de voir arriver Valance, il n'a pas trop envie de l'aider, et il le met même en zonzon. Et il va se faire sauver juste par une jeune de l'équipage qui va sentir que Valance, il est vraiment là pour les aider. Et on ne comprend pas finalement, enfin on comprend mais on ne comprend pas tout à fait, on sent qu'il y a un truc qui chie entre ces rebelles et ces Wicket, et on s'aperçoit que le grand général de cet équipage n'est autre qu'un malfrat en fait, puisqu'il a...
Ouais, il a retourné sa veste.
Voilà, il a fagoté avec les Wicket, à ce moment-là, Papier Toilette propose d'aider à détruire Valance, parce qu'il le connaît. Donc voilà, on a toute cette... bataille dans l'espace, hein, on va le simplifier de cette manière, qui s'ensuit, et on va dire qu'ils arrivent à en réchapper assez facilement. La jeune rebelle va aider notamment Valance, donc ça c'est un grand moment d'émotion, et les Wicket vont se faire, regardez bien, donc là on les voit, là, ils font les malins, et tout d'un coup Valance leur tombe dessus un peu à la Terminator, justement, il arrive par derrière et il les explose un par un, donc ça c'est assez jouissif. Et à la fin, Valance repart avec Papier Toilette, encore prisonnier. Le pauvre, il passe sa vie dans cette saga à être prisonnier, en fait, finalement. On se le refile, quoi. Hein.
Ouais, et il mérite.
Il mérite, ouais. En même temps, vu comme il est habillé, franchement...
Tu vois, tu fais une fixation sur Dengar.
Non, mais moi, Dengar, depuis que je l'ai vu dans les Freemakers... ils l'ont complètement ridiculisé, quoi. Enfin, franchement, ils ont pris un perso hyper hyper high à la base, quand même, toi, il est plutôt gros level, quoi. Et ils l'ont complètement tourné en ridicule, ce qui fait que moi, enfin, maintenant à chaque fois qu'on le voit, mes gosses font ah regarde, il y a Papier Toilette, et ils se prennent des barres de rire dès qu'ils le voient, quoi. Alors du coup, je trouve que ça, c'est sympa,
les Lego. Lego en même temps, ils tournaient au ridicule pas mal tout le monde, mais
ouais, mais lui, je trouve que ils l'ont quand même bien retourné dans la boue, quoi. Et ils lui mettent une BD, on dit allez, on va lui donner une heure de gloire à Papier Toilette. Ben non, même pas.
Faut dire, je sais pas si t'avais prévu en parler plus loin, mais il y a une historique aussi entre Valance et Dengar. Donc, parce que c'est Dengar qui l'a trahi dans la BD Cible Vador, là, qui est un peu le prologue, on va dire, à cette série-là, là, Bounty Hunters. Donc,
D'ailleurs, il me semble que tu avais une petite image, Francis, dans laquelle on voyait les liens entre cette BD et toutes les précédentes. Ça,
hein. Parce que Valance, en tout cas, si jamais des gens nous écoutent et n'ont aucune idée de qui on parle depuis tantôt, Valance, hein, parce que c'est pas un personnage qui apparaissait à l'écran nulle part. On l'a jamais vu à l'écran.
Si vous êtes vieux, vous l'avez vu dans Titan, justement, à l'époque, dans les Marvel Star Wars, puisque c'était un personnage de l'UE Légende, un des tout premiers, qui a été réintégré.
Ouais, exact. Puis c'est ça, hein, les gens qui font référence à Terminator, faut quand même mentionner que le personnage existait avant que James Cameron crée sa saga de Terminator. Mais voilà, dans le canon, il a été réintégré dans la BD Cadet Impérial qu'on voit à l'écran, là, Han Solo Cadet Impérial. Et justement, dans la BD d'aujourd'hui, le deuxième Bounty Hunters, on a des flashbacks de cette BD-là. Donc c'est quand même bien de revoir, soit on revoit les événements ou on les voit plus développés ou tu sais, du point de vue de Valance. Donc c'est quand même
intéressant. Et ça valorise les anciens tomes, le côté cross
exact.
On moi, va c'est dire cross-média, mais cross-série.
Ça donne envie de retourner les lire. Donc,
exactement. Ouais, tout à fait.
Et la deuxième, Cible Vador, bon ben voilà, c'est une série vraiment là, 100% autour de Valance qui acceptait la mission d'assassiner Vador et montait une équipe de chasseurs de primes.
En fait, c'est un peu le premier vrai tome de Bounty Hunter. Le 1 serait le 2 et celui-là, c'est le 3 en fait.
Oui, exactement. C'est juste qu'ils ne pouvaient pas faire une série ongoing qui se serait appelée Cible Vador parce que c'est vraiment le thème de cette BD-là.
En fait, je pense qu'ils ont fait le test, ça a marché.
Ouais,
c'est exactement. Ça. Et puis, ils ont dit, allez, on en fait un ongoing, quoi.
Exact. Donc, voilà, c'est ça. Mais vous le voyez...
Il nous reste encore, Francis, un dernier arc. Donc là, c'est un one-shot. Hein, donc, c'est la fameuse couverture où on voit Boss, justement, en perspective, qui nous saute dessus. Alors là, ce qui est intéressant, c'est voilà, on est sur le titre, ça s'appelle La Grande Chasse de Malastar, et on voit que on a un Moon, c'est ça, hein, du clan bancaire, qui vient participer à une grande chasse sur Malastar. Et il y a tout un jeu en fait où ils vont affronter un chasseur de primes au hasard. Pas de bol, c'est Bosk. Et là, par contre, autant papier toilette, on le roule dans la boue. Et autant Bosk, là, on en fait vraiment un personnage vraiment de très très haute volée qui fait flipper carrément. Et tu te dis, moi je tombe sur en face de Bosk, un peu énervé, je sais pas ouais. ce que je fais.
C'est ouais, effectivement. Autant dans l'Empire contre-attaque, c'était un peu le costume cheap. Moi je trouve ouais. que c'est le personnage qui faisait le plus Star Trek là. Tu sais, bon, tête en caoutchouc.
C'est un costume de Star Trek qu'ils ont repris, non? Non, de l'Odyssée de l'espace.
Je sais pas.
Pour faire le personnage. Ils ont repris le costume de Bosk, le costume jaune. Il est tiré d'un film. Je sais plus si c'est Star Trek ou l'Odyssée de l'espace.
Je saurais pas dire, mais au final, au fil des récits, Bosk, ben, déjà on l'avait un peu dans The Clone Wars. Mais je trouve qu'en BD, vraiment, c'est un personnage qui rend tellement bien, qui est magnifié par les dessinateurs, parce qu'on en reparlera. Là, mais...
Et puis même dans The Clone Wars, il est cool. Ouais. Quand ils lui font parler, ils lui mettent des S, comme avec les 32 Chan. Je trouve que c'est assez cool. Et on sent vraiment la brute à l'état sauvage, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et il vient, en fait, il sauve en fait, des gars, mais il leur fait bien comprendre que c'est pas parce que pas par sympathie, quoi. Et donc, il s'oppose à ce fameux personnage qui, je trouve, le Moon, a une certaine classe. Donc, c'est celui-ci, là. Alors, il est là. Voilà, on le voit avec toute sa bande de chasseurs de primes. Lui, il est du clan bancaire, mais les autres, c'est des espèces de mercenaires qu'il a recrutés. Et on voit que dedans, voilà, il y a la grosse bestiole qu'on voit dans l'épisode 7, dans le bar. J'ai perdu son nom.
Je connais pas le nom de la race là, mais ouais, effectivement.
Ouais. On voit les races typiques de Malastar, hein, de toute façon qu'il y a dessus. Hein. Mais on voit même Bip Fortuna à un moment. Donc là, ça c'est aussi un truc que j'apprécie pas mal dans cette série, c'est le niveau des aliens. Il y en a plein, ça fourmille. Et ouais. ça me fait vraiment plaisir. Et je trouve que pour une BD comme celle-ci, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, et on voit
l'occasion de toute façon, parce que quand on est dans une BD qui tourne beaucoup autour de l'Empire, effectivement, il peut pas avoir des aliens à profusion, tandis que là, on est justement la pègre, le underworld là, de Star Wars, donc c'est l'occasion.
Ouais. Et donc, voilà, donc du coup, je vais pas citer toutes les races qu'on voit, mais il y en a vraiment un sacré paquet. Et donc ça, c'est super intéressant, et c'est un espèce de battle royale qui tourne à 100 à l'heure avec des explosions de tous les bouts. Et là,
comme
vraiment, c'est
une chasse organisée, on va dire.
Ouais, c'est ça.
De chasse, là. Nous au Québec, on a l'île d'Anticosti là, qui sert de territoire de chasse par excellence.
Et ce qui est rigolo dans ce truc-là, c'est que finalement, le chasseur devient la proie. Et ça, j'ai beaucoup peiné. Bon, on s'en doute un peu, mais je trouve la manière dont c'est amené, c'est trop bon. Et ce Moon, qui est un gars qui est vraiment plein de thunes, qui se croit au-dessus de tout le monde, finalement, à la fin, il se retrouve face à l'état sauvage, face à Bosk. Et il se dit, merde, j'ai merdé. Et il commence à prendre tout le monde de haut. Et à la fin, on sent qu'il a une option avec Bip Fortuna. Il dit, ah, s'il te plaît. Non. Et le truc est assez bon. À la fin, je sais pas si t'as vu.
Ouais, vas-y.
Il lui offre un banquet à Bosk, Big Fortuna. Il dit, tiens, voilà, t'as mérité ça. Et l'autre, il dit, non, je préfère la viande crue. Et ça, je trouve que ça fait vraiment, vraiment le gros sauvage, quoi.
Ouais, puis c'est ça, en fait, on apprend que c'est Bib Fortuna qui l'a engagé exprès là, pour aller là. Mais pour se débarrasser de concurrents, justement, qui ne voulaient pas traiter avec Jabba. Mais au travers de cette histoire-là, qui est vraiment plus one-shot, il y a quand même quelques petites pages sur Valance et Dengar.
Et Dengar, justement, et j'allais y venir. Et on finit justement. On finit avec cette image-là, où justement, on apprend que, du coup, comme il en doit une à Boba Fett, et finalement, on dit que c'est des one-shot, mais pas tellement, puisque à la fin, ils disent j'en dois une à Han Solo. Je lui dois la vie, donc il faut que je lui rende la vie. Donc là, il est dans la carbonite, donc je vais y aller.
C'est ça, on met vraiment moi, j'ai l'impression que ce one-shot-là est vraiment là pour mettre la table sur la suite, qui est la fameuse Absolument. Guerre des chasseurs de primes.
J'ai eu le même ressenti. Et il y aura évidemment un lien, justement, entre les rebelles, l'Empire et les chasseurs de primes par rapport à comment on s'organise pour aller chercher Han Solo dans la carbonite. Et je pense qu'on va voir des éléments justement entre le côté la pègre, les rebelles et l'Empire, Boba et compagnie, qui va se positionner où pour arriver à la fameuse scène qui pour moi est la meilleure de toutes les scènes dans Star Wars, le palais de Jabba. Enfin, vraiment...
Ouais, ben c'est, on en est là, évidemment, là, c'est pas fini, là, l'événement, la guerre des chasseurs de primes en anglais, mais on en est tellement éloigné de cette fameuse scène-là qu'on se demande quel chemin ils vont prendre justement pour nous ramener à Jabba.
Donc, c'est-à-dire que ça va peut-être durer trop longtemps, tu veux dire, pour y arriver?
Ah non, c'est juste que moi je trouve ça super intéressant. On est très loin d'un simple crossover, là, si je peux faire un aparté là, rapide là-dessus.
Vas-y.
Les 4 BD, on suit les mêmes événements du point de vue de, par exemple, dans Star Wars, évidemment, c'est notre équipe de rebelles. On a dans Vador, dans la série Dr. Aphra et dans la série Bounty Hunters, plus les numéros uniques de la série La Guerre des Chasseurs de Primes. Tout ça en même temps, donc il faut lire les comics. T'sais, ils sortent chaque semaine, il en sort un d'une série différente. Mais tout se met ensemble là, vraiment comme un parfait casse-tête. Au point où j'ai presque peur quand ça va être en BD, justement en album séparé du côté de chez Panini. Je me demande à quel point. En tout cas, j'espère que, mettons, là, que les gens qui ne prendraient pas du tout la série AFTA, il ne va pas trop leur en manquer. T'sais, ou ceux qui ne prendraient pas la série Star Wars, etc. Je pense que non. Je pense que ça va quand même se suffire à soi-même, là, chacun. Mais bref, c'est ça. Moi, jusqu'à maintenant, je suis très satisfait. Fait que je suis content dans des séries comme ça qu'on ait un. Même si j'aime pas trop les one-shots habituellement, mais là, je trouve justement que c'est bien qu'on ait une espèce de transition pour nous orienter vers cet événement-là qui vient prendre tous les personnages de toutes les séries. Sinon, tu vois, avant qu'on. Je pense que tu voulais qu'on lise. Parce que Loïc, t'es censé être des notes hein, aujourd'hui, malheureusement.
Exactement. Et donc, du coup, avant qu'on passe aux commentaires, ce serait bien qu'on lise ce qu'il en a pensé.
C'est ça.
Mais ne donne pas sa note. Juste, ne donne pas sa note. On va la garder pour la fin.
C'est bon, je vais garder la note pour la fin. Tu vois, Loïc nous dit, voilà un album qui tranche bien avec le premier. Déjà, par ces deux histoires distinctes, les deux premiers épisodes sont une sorte de conclusion au premier volume, effectivement. Mais surtout une conclusion bien plus intéressante que tout le déroulé qui nous y a mené. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié tous les flashbacks sur le passé impérial de Valance. Ça ajoute vraiment du corps au personnage et achève de le rendre humain alors qu'il est, en apparence, effectivement, il est plus proche d'une machine. Le cheminement qu'il construit est vraiment passionnant et ça m'a donné envie de le croiser dans du Star Wars live action ou animé. C'est vrai, tu vois, j'y avais pas pensé, mais aussi. Imagine Valance en réel. Là, vraiment, on aurait Terminator.
Pour moi, Valance, tu sais, bah, d'ailleurs, le dernier truc sur Malastar, ça m'a fait penser à Predator.
Oui, c'est vrai. Effectivement.
C'est le premier film.
Ouais. J'aurais finalement préféré qu'on explore encore plus cette partie de Valance. Le reste, ça reste du chasseur de primes contre chasseur de primes, mais c'est mieux exécuté que dans le premier volume. Par contre, là où c'est grandiose, c'est la séquence de la chasse à l'homme, du qui, du comment, du pourquoi. Il y a un vrai message qui en ressort et ce qu'on a peu dans Star Wars. J'aimerais tellement que la pègre et les chasseurs de primes soient plus développés selon ce paradigme là, des élites. Niveau dessin, c'est la continuation du premier, très correct, sans être incroyable. Et sans donner la note, il dit ça me donne vraiment envie de lire La guerre des chasseurs de primes, dont on parlait tantôt, et de revenir sur les prochains volumes. Donc c'est déjà bien, hein, parce que sur les derniers albums, peu importe les séries, Loïc perdait de l'intérêt petit à petit. Donc on sent déjà ici là, qu'il retrouve son intérêt. Et tu vois, sinon, de mon côté, je commence toujours hein, au niveau des attentes parce que ça joue beaucoup sur l'appréciation si les gens ont adoré le précédent ou détesté. Moi, c'est sûr que quand j'ai vu que c'était plusieurs petits arcs, là, un arc de deux, un arc de trois, un one-shot, c'est sûr que j'ai craint le pire. Là, je me suis dit « Ah non, encore! » Parce qu'ils nous avaient fait ça avec Star Wars il y a environ un an et demi, deux ans. Là, on avait des albums, c'était juste des one-shots rassemblés ensemble. Il n'y avait aucun lien entre les histoires. Là. Donc voilà, mais sinon, comme Loïc a mentionné, on ferme la porte de l'histoire de la jeune héritière qu'on avait dans le premier album, là, celle qui est héritière des deux clans opposés là, de la pègre. Je me souviens plus le nom des deux, là, mais fait que c'est ça. Valance la confie à son ex, qui est maintenant une chef rebelle, on va dire. Mm-hmm. Je me souviens plus son grade. Mais c'est ça, on ferme cette porte-là pour se diriger vers la guerre des chasseurs de primes. L'histoire est beaucoup moins, même si ça pourrait paraître là, tu sais, trois arcs différents, mais au final, c'est beaucoup moins difficile à suivre que les précédents. Dans le fond, c'est ça, quand tu penses aux précédents, tu sais, ok, ça parlait de quoi, qu'est-ce que ça racontait, tout ça. Là, dans le fond, c'est relativement simple. Peut-être qu'il y en a qui vont dire simpliste, là, mais moi, j'ai quand même bien oublié. Oublié, apprécié. Mais c'est ça, ceux qui n'auraient pas pris le premier album, j'ai l'impression que c'est pas bien grave à la lecture de celui-là. Ouais. Je trouve qu'il suffit quand même à lui-même.
Mais par contre, ou les petits oublié... arcs, j'ai trouvé sont liés quand même, tu vois. Je sais pas pour toi.
Exact, c'est pour ça que c'est séparé en trois arcs, comme Loïc disait, pour fermer la porte de l'album numéro 1. Mais au final, c'est très très lié, là, ces trois histoires-là. Donc... c'est sûr, sinon, tu sais, moi, j'ai noté, c'est pas une histoire passionnante. La mission est accomplie. Mais tu sais, la passion requiert aussi des personnages chers à nos cœurs ou des situations épiques, là, tu sais, à la Retour du Jedi. Mais là, c'est une série sur les chasseurs de primes. Et le plus connu, c'est Boba Fett. Mais là, le personnage principal de cette série-là, jusqu'à maintenant, Bounty Hunter, c'est Valance. Puis, comme je disais tantôt, c'est un personnage jamais vu à l'écran. Qu'on a réintroduit dans le canon il y a quoi, un an, là, t'sais, après quatre décennies d'absence quasiment, en tout cas en VO. Donc c'est ça, moi je vois ça comme une série de construction d'un nouveau perso, puis peut-être que ça va ultimement finir en un personnage à l'écran, comme Loïc disait, là, ce serait quand même intéressant. Mais je vois ça, c'est pour ça que je vois ça un peu comme Afra en 2016, quand ils nous sont arrivés avec la BD, la série sur Afra en 2016, ou même ses apparitions dans la série Vador avant, t'sais, c'était de la construction de personnages. Ah, au début, quand peu importe ce qui arrivait à Afra, on s'en foutait. C'est pas comme nos liens émotifs avec Luke, Leia et Han. Mais c'est ça. Évidemment, comme tu as dit, je m'étais noté des aliens en masse, des pirates, des rebelles, des personnages de retour du premier ou du prologue Cible Vador ou des flashbacks aussi, comme j'ai mentionné. Donc non, je trouve que voyons, c'est Ethan Sack, hein, c'est ça? Ethan Sack a quand même fait une très bonne job de ce côté-là. Le seul vrai aspect qu'on pourrait dire négatif, moi, je trouve qu'il y a de l'air d'être un peu redondant avec cet auteur-là, quand je repense à Galaxy's Edge et à Allégeance, qui nous avait fait aussi, la BD Allégeance, c'est la vitesse de développement. J'ai l'impression que ça va tout le temps vite, très vite, trop vite, qu'il nous manque des pages ou qu'il nous manque des cases. Pour bien saisir tout le déroulé. Tu sais, des fois, d'une page à l'autre, t'as l'impression, OK, il s'est passé plusieurs heures, là, tu sais. On est rendu ailleurs. Fait que c'est la seule chose que... Puis c'était la même... J'avais la même observation dans Allegiance puis dans Galaxy's Edge. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu son style, là, si on peut dire. Sinon, écoute, Loïc a mentionné un peu côté graphique. Ben, j'ai déjà... mentionner le changement d'artiste là, pour les couvertures, c'était apprécié. Il y a Paolo Villanelli là, pour les dessins, moi je le trouve toujours très joli. C'est comme je disais, c'est lui qui nous avait fait Lando. Là, fait que pour des affaires spectaculaires, les vaisseaux, les visages, c'est réussi quand même. Souvent c'est parfait. Les ambiances aussi, un peu dans cet album-là.
Est-ce que t'as pas trouvé que les vaisseaux de justement des Wickers semblaient un peu aux vaisseaux de Star Trek l'Enterprise?
Ben oui, un peu, mais c'est les mêmes vaisseaux qu'on avait dans The Clone Wars. Donc, ouais. C'est pas
le nouveau. Et le vaisseau de Zukus, qui ressemblait pas mal aussi au Razor Crest, j'ai trouvé.
Ah, un peu, tu vois, ouais. J'avais
pas. Je sais pas si c'est le même genre de modèle ou pas, tu vois.
Ouais, ouais. Mais bref, mais c'est beau, tu sais, tu comprends, les vaisseaux d'une page à l'autre, tu les reconnais, là, tu sais, c'est bien réalisé. Et les ambiances, c'est ça, dans cet album-là, on a beaucoup d'ambiances différentes. Entre la chasse sur Malastère, entre l'espèce de cantina justement là, qu'on voit sur une des couvertures, en tout cas avec les éclairages, évidemment, on est dans un bar plus discothèque, là, c'est pas une cantina comme mettons sur Tatooine, là, qui serait plus mettons une taverne. Fait que non, c'est ça, c'est du bonbon. Puis son bosque, on l'a mentionné tantôt, là, mais moi je trouve son bosque épique, il n'y a pas d'autre mot. Je l'avais dit aussi pour la première premier album. Cette fois-ci encore, c'est magnifique. T'as vraiment son... Si c'était pas autant découpé en cases, ça pourrait faire des magnifiques affiches. Donc, voilà. Je me suis noté, je sais pas si t'as remarqué de ton côté, Tom, peut-être une petite inconsistance là, dans l'état du visage de Valance, qui, au fil des numéros, il y a de moins en moins de peau. Okay? Donc, à un moment donné, il n'y a même plus de peau sur le nez et toute la bouche au grand complet. Donc, à force là, de manger des coups. Ouais. Et soudainement, à la toute fin du numéro 11, la peau est revenue sur le nez et la bouche, même si au début du numéro, elle n'était pas là. Donc, je ne sais pas si c'est volontaire, parce que comme dans le même numéro, c'est différent. Je ne sais pas si c'est censé être de la peau régénératrice.
T'sais. Ouais, je sais pas.
À un moment donné, il demande même à son...
Oui, je regarde, mais oui.
Ouais. Puis tu sais, à un moment donné, il est sur une station, là, puis il demande
mais
à
là, son il, médecin. Là, il a quasiment plus de peau, hein, franchement.
Ouais. Ben, c'est... Puis moi, je trouve que ça y va super bien en termes de design. Là, ça fait... Mais à la toute fin de la...
T'as des goûts bizarres, toi. Hein.
Mais à la toute fin, il redevient comme avant, donc c'est ça. Peut-être qu'il y avait une canette de peau en spray. Là.
Une canette de peau, du bacta artificiel.
Ouais, c'est ça, mais c'est pas de la peau naturelle de toute façon. À un moment donné, il demande justement à son réparateur là, est-ce que t'en as de la peau disponible, t'sais? Mais bon, c'est un détail. Mais c'est ça. Puis, dernier point, je voudrais mentionner en conclusion, enfin une équipe auteur, artiste, coloriste qui est constante, tu sais, qui change pas tous les numéros. Là, on a juste les dessinateurs de couverture qui ont changé, mais c'est même le coloriste, c'est ça, il s'appelle Arif Prianto. C'est un habitué de Villanelli, donc ils travaillent très souvent ensemble. Tu sais, ça paraît, là, l'air de rien, la chimie entre deux équipiers de travail. Non, c'est ça. Vraiment peu de négatif. Bon, encore une fois, c'est ça, comme je disais, le choix de Panini pour l'album. C'est pas celui-là.
Ah ben moi, pour moi, ils ont encore choisi le meilleur. Que
ça. Ouais, pour c'est moi, ça. On est vraiment là, sur, la meilleure couverture. Sur les couvertures. Donc, je pense que Panini écoute tes suggestions le plus qu'elle est mienne.
Ouais. J'envoie des, tu sais, des images subliminiques à Panini.
Ouais,
et chaque fois que j'adore une couverture, ils la mettent.
C'est ça.
Ils le savent pas.
Ouais, c'est ça, en résumé, un album meilleur que le premier. Je vais garder ma note pour la fin.
Ah oui, parce que j'avais encore 2-3 petits trucs à rajouter.
Ouais, vas-y.
Encore un truc, tu sais, qui m'a fait marrer. Valence dans l'espace. Ça, c'est le truc. Bon, maintenant, on le voit à chaque fois. Hein. Kanan a été dans l'espace, il est pas mort de froid. Leia vole dans l'espace. Et maintenant, Valence, simple cyborg qui a même pas de pouvoir de Jedi. Parce qu'on pouvait se dire, bah, peut-être qu'ils font une la force, les enveloppes de machin. Non, là, le mec, simple, moitié humain, moitié cyborg, il va dans l'espace, il s'accroche au truc. Bon, bah, ça commence à
ça
faire
beaucoup.
Ben ouais, parce que si je trouve que c'est un peu too much. Autant quand c'est des Jedi, j'arrive à me dire, tu vois, mon explication, c'est qu'ils se font une bulle de force.
Qui non, est un mais peu moi, comme Green Lantern, tu vois. Même pas de besoin de bulle de force, moi, tu vois, je te dirais, une des choses, c'est que justement, quand il y avait eu les derniers Jedi, il y avait eu de la démystification, et justement, j'avais appris que ce qu'on voit très souvent dans les films est complètement irréaliste, c'est que quelqu'un ne va pas mourir de froid instantanément s'il est exposé au vide de l'espace, ou tu sais, des fois c'est comme si
il y avait
de la pression. Puis... Non, c'est ça, fait qu'apparemment la scène dans les derniers Jedi, c'était pas du tout, évidemment il y a le pouvoir de la force là, de se rapprocher du vaisseau, mais le fait qu'elle survive dans le vide de l'espace, c'est pas du tout là, inconstant, là. Les gens n'explosent pas, ou tu sais, peu importe toutes les choses qu'on a vues dans
le vide. Tu gèles pas direct, quoi.
Tu gèles pas direct. Évidemment, ça sera pas long. Là. Tu peux pas rester 5 minutes dans le vide. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à regarder des vidéos
d'accord.
de démystification qui avaient été faites dans le temps. Et dans le cas de Valence, ben moi, j'ai pas fait le lien avec les autres parce que pour moi, Valence, c'est tellement rendu une machine que tu vois, en dehors, il n'y a même pas besoin
humaine.
D'oxygène. Ça veut dire qu'il n'y a même plus de poumons. Tu sais, il y a peut-être juste encore un cœur. C'est peut-être même un cœur mécanique, mais... Moi, j'ai plus associé ça au fait qu'il n'y a pas besoin de respirer dans le vide de l'espace, mais bon. Ou qu'il peut retenir sa respiration très, très, très longtemps. Mais c'est drôle parce que j'ai essayé de retrouver, justement, pour l'histoire de la peau là, que je parlais tantôt, j'ai essayé de retrouver, mais j'ai pas réussi. Sur un des numéros, je pense que c'était un des premiers de la série Bounty Hunters, à moins que c'était dans Cible Radar, mais on avait une pleine page à la toute fin de l'album, là, ça faisait pas partie de l'histoire. Mais c'était un diagramme là, vraiment là, de Valence avec toutes les pièces expliquées. Là, puis, fait que peut-être que ça disait justement qu'il n'y a pas besoin de respirer dans le vide, ou etc.
Il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'était les petites métaphores et les parallèles. Par exemple, le fameux cristal que son ami lui a offert qu'il a gardé depuis toujours. Et en fait, tu vois qu'à un moment, quand il voit que sa copine, elle est avec un nouveau type et qu'il est bien, et qu'elle est bien avec, en fait, finalement, le cristal qu'il a gardé toute sa vie, il est prêt à le lâcher et il le lâche en fait pour faire une bonne action. Et j'ai trouvé que c'était une manière de montrer que lui-même, hop, ça y est, il avait réussi à passer autre chose, il arrivait à décrocher de sa dépendance, enfin, plutôt positive finalement, mais voilà, que du coup, il arrivait à passer à autre chose, c'est pas dit.
Deuil de cet espoir-là.
Voilà, mais j'ai trouvé que c'était intelligemment montré, sans trop en dire, sans « oui, Valence pense que t'es le truc », machin, non, le gars, voilà, il y a un moment, ce truc-là auquel il tient tellement, il le lâche. C'est à la fois pour faire une bonne affection, mais c'est à la fois aussi parce que ça y est, il a réussi à passer un cap et c'est intéressant. Ça veut dire que le personnage, il évolue. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et j'ai beaucoup aimé les liens entre la bataille d'aujourd'hui. Je parle du deuxième arc de ce tome.
Entre les pirates.
Voilà. Entre la bataille avec les pirates et la bataille de l'époque avec Han Solo, où à chaque fois, il y a un parallèle à faire. Et c'était construit, j'ai trouvé en parallèle, et c'était très, très bien amené. Et donc, l'idée de rendre un petit peu la dette ou les coups. Et j'ai trouvé que cette structure était vraiment cool en termes de récit. Pareil, l'arrivée du X-Wing, qui est un peu le sauveur, bah, ça fait à nouveau penser un petit peu à l'épisode 4, quand ils vont faire péter la grosse bouboule. Donc ça, j'ai trouvé que c'était sympa aussi. Alors, le seul petit truc encore, j'ai trouvé que dans la rébellion, autant il y a des aliens partout, mais dans la rébellion, non, il y a que des hommes. Et c'est chiant parce que...
Cette fois-ci, ouais, c'est vrai que dans cet équipage-là, hein, c'était très...
Voilà, on a bien compris qu'à l'époque, quand ils ont fait les premiers films, ben voilà, peut-être qu'ils manquaient d'argent ou peut-être qu'ils n'y avaient pas pensé que finalement, la cause vaut plus que la race. Et... aujourd'hui, on l'a dépassé ce truc-là, c'est-à-dire qu'on a compris dans les nouveaux Star Wars, et ça c'est quelque chose que j'apprécie, que les résistants, c'est pas juste des gars qui ont la même race, c'est les mecs qui ont des mêmes idéologies, les mêmes causes. Et je trouve que l'idée de montrer qu'une cause dépasse en fait finalement ce qu'on est, c'est-à-dire nos idéaux dépassent ce qu'on est, pour moi c'est fort en termes d'idées, et bah du coup là on le voit pas. Voilà, c'est les humains qui machin, non, c'est tous ceux qui partagent les mêmes idéaux en fait. Et je trouve que c'est un message à la fois en termes de valeur qui est très très fort pour moi. Et je trouve ça dommage de pas se défaire en fait des contraintes en gros de l'époque, c'est-à-dire à savoir que les rebelles c'est forcément des humains et principalement des blancs quoi. Alors que voilà,
je pense que c'est une question d'Adam aussi parce que dans la série Star Wars on a énormément d'aliens quand même dans l'équipage. La série actuelle de
Billy. Ouais, mais pourquoi là, il l'a pas fait?
Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est un choix d'Ethan Sachs, là, j'imagine. Donc, c'était un petit équipage aussi, là, c'était un vaisseau de transport, si je me souviens bien.
Et moi, tu vois, le fait d'avoir des Twi'lek, par exemple, dans les leaders de la rébellion, ça, c'est cool. Tu vois, alors après, ils ont dit, allez, il y a aussi des calamariens. Mais bon, j'aimerais bien voilà, que ça dépasse tout ça. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble de mes commentaires. Mon cher Francis, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, toi, par rapport à ce qu'on vient de voir, là? Ou est-ce qu'on peut passer aux notes?
Non, on peut passer aux notes. Et tu vois, du côté de... Je commence avec Loïc.
Ouais.
Loïc nous disait un bon 14 sur 20.
14 D'accord. sur 20,
donc selon les critères de Loïc.
D'accord. Et toi, combien tu mettrais?
Moi, tu vois, le premier album, j'y avais mis un 15 sur 20. Cette fois-ci, comme je disais, j'ai préféré celui-là. Des petits défauts mineurs, là, mais je trouve que c'est un bon album. Donc, un bon 17 sur 20.
Ah ouais. Combien j'avais mis, moi, au premier?
J'en ai pas la moindre idée, Thomas. Je ne m'étais pas prévu ces stats-là, mais je peux aller te chercher ça.
Non, on ne va pas y passer non plus des plombes. En gros, moi, comment je me positionne? C'est un album qui m'a beaucoup plu. Je dirais... Alors, il est mieux que le premier, mais au bout du en fait, troisième tome sur les Bounty Hunters, même s'il est mieux que le premier, peut-être pas aussi bien que Sybil Vador, il est mieux que le tome 1, mais par contre, comment dire, il y a un peu un essoufflement. C'est-à-dire que, ouais, ok, bon, il y a des nouvelles idées, c'est sympa, mais finalement, il y a moins, la fraîcheur de se dire, ouais, je vais lire un titre sur les Bounty Hunters. Tu vois, déjà, ça commence un peu à descendre. Par contre, il est très très bien, donc je lui mettrai 15. Mais bon, voilà, globalement, j'ai passé un très bon moment, mais voilà. Et ce que je reprocherais un peu aussi à cet homme, c'est que c'est bon, les 5 Bounty Hunters qu'on avait dans l'Empire Contre-Attaque, on les connaît. Mais ils sont où les autres? Horacine, Cad Bane, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a Beckett, il y a. On pourrait en mettre plein, quoi, des autres personnages, ou même en créer. Ouais.
Valence Kane. Beckett, faudrait que ce soit un flashback, parce que, à moins que t'aies pas vu Solo.
Oui, oui, je suis d'accord. Il est mort là à cette époque-là, oui, bah oui, puisque Solo c'est avant, tout à fait.
Mais ouais, t'as pas tort. Ben, tu sais, il y a des rumeurs qui disent qu'on va revoir Cad Bane dans livre de Boba Fett. Évidemment, c'est des rumeurs.
Oh, mais, ben, j'espère bien.
Et Horacine, de mémoire, il était...
Non, elle a été tuée par Beckett, dans Han Solo, il le dit.
Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est mentionné.
Donc, non, mais enfin, voilà, c'est pour donner des chasseurs de primes, ou Embo, enfin, je sais pas, ou même des nouveaux. On a vu que sur les chasseurs de primes, tu peux être hyper créatif. Pourquoi ne pas amener des nouveaux chasseurs de primes, et puis réécrire des nouvelles légendes? Parce que là, il y a un moment, la galaxie monstre comme elle est, toujours les mêmes 4 cons qui se pointent, quoi. C'est bon, quoi, enfin, je veux dire, les gars, il y a d'autres personnages à exploiter, à mon avis. Donc ça nous fait, toi tu as mis, tu dirais combien toi?
Moi je disais un 17 sur 20, fait que c'est quand même
donc ça nous fait...
un très bon choix à mon avis.
Ça nous fait un peu plus de 15. Donc on peut considérer pour les auditeurs que c'est un album à acheter, Francis, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, c'est pas juste pour les complétistes, contrairement à d'autres. Là, cette fois-ci, je trouve que celui-là est un très bon divertissement, et même pour des fois on fait des émissions en fin d'année, des idées cadeaux. Donc voilà, c'est le genre d'album que je trouve qui se donne très bien à quelqu'un qui voudrait découvrir les BD de Star Wars.
Ok. Donc du coup, on fait notre petit WhatsApp.
Oui, donc on va sortir d'hyperespace et on se retrouve à la cantina comme d'habitude. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.
Alors, à toi l'honneur, Francis.
De mon côté, quoi de neuf? Les auditeurs très fidèles à nos médias sociaux et compagnie savent qu'on a dû retarder in extremis notre émission sur le livre The Rising Storm, hein, le deuxième roman adulte de la Haute République, parce que Cécilie avait des problèmes techniques, le routeur qui était décédé 2 heures avant l'émission. Mais c'est ça, on devrait se reprendre bientôt. Et pour rester sur la Haute République, moi je suis...
De la phase 2 du coup.
Oui, on est dans la phase 2 de la Haute République. Et moi je suis sur l'écoute de l'audiobook du deuxième roman Young Adult, aussi, donc qui s'appelle Out of the Shadow, de Christina Ireland. Et je dois dire que jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Je me demande même si j'aime pas plus que The Rising Storm. Petite mention, par contre, très étrange, c'est que c'est le premier audiobook depuis très longtemps qui n'est pas produit par la même boîte de production que les autres audiobooks. On le sait, les audiobooks de Star Wars sont très riches, sont vraiment rehaussés avec musique, effets spéciaux, les voix, etc. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment une lectrice. En plus, il y a eu des gens, beaucoup de gens se sont plaints parce qu'elle a pas... C'est pas une habituée et elle a pas été chercher les mêmes prononciations que dans les autres audiobooks. Fait que, tu sais, pour des termes... mettons Martian Rowe, le nouveau grand vilain, là, je pense que c'est Martian Rowe, tu sais, ou ce genre de petits détails-là. Mais c'est ça, il n'y a aucun effet spécial, il n'y a pas de musique, etc. Donc, je ne sais pas le pourquoi du comment, je vais essayer de trouver ça pour notre émission qu'on va faire sur ce roman-là. Mais en termes d'histoire, j'aime bien ça. On retrouve principalement 2 Jedi que j'avais bien aimés. Vernestra, quelque chose comme ça, une Jedi à la peau verte qu'on a dans le roman jeunesse de la première
phase. Avec Imri, du coup?
Avec Imri, effectivement. Ben là, tu viens de spoiler complètement la fin du roman. Mais effectivement, Imri qui est maintenant son padawan et qui, elle, est les chevaliers Jedi. Et on a Reet, que j'avais dit que c'était le pire choix de prénom là, qui se prononce mal dans toutes les langues. Mais Reet qui était dans En pleine ténèbre. Donc, le premier roman de
Young Adult. Je suis en train de lire.
Ah, OK. Ben, c'est ça. Il revient dans ce deuxième roman-là. Fait que moi, j'aime bien ça. Et tu vois, justement, parlant de ce roman-là, j'ai reçu une petite commande d'Europe. Donc, les trois plus récents romans. Donc, Oulang Sabaoth. Ben,
je suis en train de lire le troisième.
Et, j'ai commencé ça. Et En pleine ténèbre. Donc, moi, évidemment, je les ai déjà pris en anglais, là, mais c'est ça, je vais pouvoir en attaquer un en version française.
Ah, tu les relis une deuxième fois, quoi?
Je les lis tous, c'est ça, deux fois. Une première fois en anglais, on fait une émission dessus, etc. Et quand la version française sort, je la relis. Bon, là, j'en ai trois d'un seul coup. Probablement que je vais y aller avec celui qui était sorti depuis plus longtemps. Je crois que c'est Où l'ombre s'abat, le deuxième Alphabet Squadron, que j'avais bien aimé. Je crois que Loïc est en train de le lire, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Fait que voilà, c'est pas mal ça, côté dernière nouvelle Star Wars. Hein.
Ok, bah moi de mon côté, j'ai terminé justement une épreuve de courage, hein. Donc le fameux roman avec Vernestra, Imri et d'autres personnages. Au début, j'ai trouvé ça poussif, parce que techniquement, il se passe pas grand-chose. Hein. Ouais. Ah, le vaisseau a explosé, on finit sur une planète, ah, et les pirates sont dessus. Voilà, c'est ça, tout ce qui se passe, et qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. Et en fait, finalement, il se passe pas grand-chose, mais par contre, ce qui est très intéressant, surtout vers la fin, c'est l'aspect... la force qui est décrite de l'intérieur. Comment on la ressent, comment on la vit, ouais. Comment on la contrôle. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, il a quand même un intérêt, ce roman, d'autant plus qu'il présente ces deux personnages qui sont quand même intéressants. Vernestra, j'aime beaucoup le personnage. Et Imri, je crois que je commence à apprécier aussi. Donc, si tu me dis qu'on va les retrouver plus tard, je suis très content. D'autant plus que là, j'ai attaqué donc, comment il s'appelle ce roman déjà, que tu m'as montré, En pleine ténèbre, de Claudia Gray. Et dedans, ils en parlent de Vernestra. Et on commence à revoir, dans le deuxième, là, dans un test de courage, une épreuve de courage, on voit Skeer, qui est le Jedi 32 Shan, qui revient, on nous dit qu'il a un bras coupé, hop, ce qu'on avait vu dans le roman d'avant. Donc là, tous les romans se lient ensemble dans la Haute République.
Et les BD.
Alors les BD, j'ai pas encore commencé, j'attends de recevoir. Enfin, Loïc m'a prêté la sienne, hein, mais je vais attendre de me l'acheter moi.
Ils sont mentionnés aussi dans The Rising Storm, là, Vernestra, là, et son Padawan. Mais comme tu dis, effectivement, au fil des romans, des différents formats, et comme je te l'annonce, mais des BD aussi, ça se construit. On commence
justement à bien connaître. Ça dessine une toile,
ouais. Ouais, on commence à bien connaître les personnages, à s'y attacher, etc. Donc,
Moi, ça me fait beaucoup penser à une grande période de l'UE Légende, qui était le Nouvel Ordre Jedi, où tous les romans amenaient des nouveaux persos ou allaient en prendre d'autres d'avant. Alors là, ils ne pourront pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de background, à part Yoda, Yarel Pouf et compagnie. Mais on sent une construction commune et puis un truc qui est assez puissant et assez libre dans le scénario. Il y a des idées qui sont intéressantes. Et bon, voilà, c'est quand même le gros coup de cœur, c'était Haute République. Pour l'instant, j'ai lu un roman jeune adulte qui n'avait pas l'air top. J'ai pris mon pied. La Lumière des Jedi, je trouvais génial. J'ai vu nos notes. J'ai vu que certains avaient réussi à mettre 7 sur 10. Je trouve ça vache.
Il y en a qui n'ont pas aimé effectivement, La Lumière des Jedi. Je pense que c'est vraiment une question de style hein, de l'auteur aussi. Puis tout ça. Mais pour revenir à En pleine ténèbre, faut mentionner, bon, c'est un bibliothèque verte, mais il n'y a pas si longtemps...
En pleine ténèbre, non!
Pas En pleine ténèbre, voyons. Oui, c'est ça, En pleine...
En pleine ténèbre, c'est celui de Claudia Gray.
Une épreuve de courage, c'est ça.
Une épreuve de courage,
tout à fait. Une bibliothèque verte, mais il n'y a pas si longtemps, ça aurait été au format PKJ. Fait que je continue de trouver dommage que ceux-là se retrouvent en bibliothèque verte, parce que ce n'est pas les petites bibliothèques vertes de 128 pages. Là.
Et c'est pas si facile à lire que ça pour un gosse, je pense.
Non, c'est ça. C'est pas du même niveau que plusieurs autres bibliothèques vertes qui sont vraiment beaucoup plus jeunes, avec le texte plus gros,
avec les dessins,
etc. Donc, c'est vraiment une autre catégorie. Puis, c'est ça pour le marché français. Ben, maintenant,
c'est pas
soit
bien
ça se ramasse chez les adultes, soit chez Bibliothèque Verte.
Moi, je trouve que c'est un double mauvais choix. Parce que les adultes vont dire « Ah non, Bibliothèque Verte, c'est bon, j'y touche pas. » Et les gosses vont dire « Ah non, putain, c'est trop dur, c'est nul, il se passe rien. Enfin, » ils vont pas avoir... Ou alors, ils vont l'ouvrir, ils vont dire « Ah non, il y a trop de texte, je prends pas. »
Les plus jeunes. Mais c'est ça, il y a plein de... Bon, il y a les personnages dont tu parlais. Effectivement, je crois que de toute façon, pour du jeunesse, tu peux pas dire je vais faire de quoi d'aussi compliqué que, je sais pas, la lumière des Jedi. Mais il y a plein de concepts intéressants. Moi-même, la planète sur laquelle se déroule la majorité de l'action, je trouve ça intéressant. Au début, ils sont sur une espèce de croisière, si on peut dire, là, tout ça. Fait que il y a plein
en
de
direction concepts.
La planète, la pluie est acide, hein, et donc
la jungle
doit perpétuellement se régénérer. En tout cas, il y a plein de petits concepts. Que dans du Star Wars, moi, j'ai pas souvenir que j'avais déjà vu avant. Donc, moi, c'est ça, je donne beaucoup de crédit quand on m'arrive avec des nouveaux concepts.
Un effort de créativité, c'est ça que tu veux dire.
Ouais, exact. Fait que, bref, moi aussi, j'encourage les gens à l'acheter. En plus, c'est quoi? C'est 5 euros, je pense. Donc,
je ne l'ai pas sous les yeux, j'aurais dû le prendre.
C'est pas pour le prix.
Mais voilà, il n'est pas cher. Donc, au final, en fait, la question à chaque fois quand on fait une critique, c'est quand on en vient, c'est est-ce que c'est à éviter, à acheter ou au moins à lire? Là, je pense qu'on peut presque l'acheter. Voilà, pour le prix, voilà, ça vaut le coup finalement. Par contre, il n'y aurait pas tout cet aspect que je t'ai décrit tout à l'heure, je dirais, bah non, il ne s'est rien passé. Mais pour l'effort créativité au niveau de la planète, etc., et au niveau du développement des personnages et de la force, oui. Mais par contre, il ne s'y passe rien, pas grand-chose. Mais en même temps, des fois, c'est sympa d'avoir des romans où on prend le temps de se poser. Tu es en vacances, tu te poses, hop, c'est un moment de détente, en fait. Voilà, c'est plus comme ça qu'il faut le vivre.
Je peux aussi montrer rapidement là, de qui on parle depuis tantôt. Là. Donc, Vermestra, c'est celle, la peau verte, les cheveux violets et le sabre laser violet. Là, donc,
et Imri est juste à côté.
Et voilà son nouveau padawan, Imri, qui est juste...
C'est qui le petit en vert, là, devant?
Je sais pas, on l'a jamais vu, ça doit être...
Nouveau personnage, non?
Parenté avec Grogu. En tout cas, je continue de garder ma théorie comme quoi Grogu est le résultat d'un party de Noël, party de bureau, là. Au temple de Jedi entre Yoda et Yaddle. Mais voilà, c'est ma théorie qui n'a pas encore été démentie dans le canon. Je
l'ai mentionné. On verra, Francis. Du coup, on va s'arrêter là-dessus, Francis. Je te propose qu'on conclue. Mm-hmm. Donc, du coup, bien sûr, ces critiques, nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires ou réactions sur les sujets que nous venons de discuter, venez avec nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord ou même notre chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux pour faire croître la communauté Star Wars en direct. Les prochaines émissions, a priori, qu'est-ce qu'on aura, Francis? On aura certainement l'émission sur déjà le Docteur Aphra, le nouveau tome 1. Et si tu penses à d'autres émissions...
On va voir l'émission, comme je disais, qui a été malheureusement reportée légèrement, celle sur The Rising Storm.
Ok, super.
On peut le voir à l'écran en ce moment.
D'accord, donc de la part de Francis, de moi-même et de toute l'équipe Star Wars en direct, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et
que la force soit avec vous.